Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast de CBV Avocat qui a pour objectif, en quelques minutes, de dresser un rapide panorama de l'actualité récente ou de revenir sur des thèmes pratiques et généraux de la fiscalité. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre et nous vous en remercions très sincèrement. Cet épisode est consacré à l'actualité fiscale de ces dernières semaines. Nous vous rappelons que tous nos podcasts sont accompagnés d'une description incluant les références de chacun des éléments d'actualité évoqués ou des thèmes abordés. CBV Avocat souhaite ainsi partager son expérience et sa passion pour une matière qui n'est pas toujours facile d'accès tant les sources sont variées. Ce podcast se destine donc à toute personne désireuse d'approcher et ou d'approfondir cette matière. La première actualité que nous avons sélectionnée concerne la convention franco-luxembourgeoise et la suspension temporaire de la mise en œuvre de l'avenant du 19 octobre 2019 sur la nouvelle méthode d'élimination de la double imposition. Certains revenus de source luxembourgeoise, qui bénéficiaient auparavant de la méthode de l'exemption, ouvrent désormais droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français, avec cet avenant qui s'applique à compter du 1er janvier 2020. Ce changement de méthode peut notamment avoir une incidence sur le calcul de l'imposition due au titre des autres revenus imposables en France. Aussi, conformément à l'annonce du gouvernement datée du 1er octobre 2021, si vous êtes résident fiscal de France et que vous percevez certains revenus de source luxembourgeoise, vous pouvez exceptionnellement solliciter, pour l'imposition de vos revenus 2020 et 2021, l'application des stipulations de l'ancienne convention fiscale relative à l'élimination de la double imposition. Cette tolérance concerne notamment les revenus d'emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise. Si vous souhaitez bénéficier de cette mesure de tolérance, vous devez souscrire ou corriger votre déclaration de revenus en ce sens. Il vous faudra conserver l'ensemble des justificatifs permettant d'attester l'origine, la nature et le montant des revenus concernés. Ces documents pourront vous être demandés ultérieurement par l'administration fiscale. Autre actualité internationale. Le 8 octobre 2021, 136 pays et juridictions ont adhéré à la déclaration sur la solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie. Parmi les mesures décrites, le pilier numéro 2 prévoit un impôt mondial minimum sur les sociétés dont le taux a été fixé à 15%. Ce nouveau taux d'imposition minimum s'appliquera aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros et devrait générer chaque année environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires à l'échelle mondiale. Les pays entendent signer une convention multilatérale courant 2022 en vue de sa mise en œuvre effective en 2023. Notre troisième actualité concerne une initiative de l'administration fiscale du mois d'août dernier sur laquelle nous n'avons pas encore attiré votre attention. L'administration fiscale a mis en place un nouveau téléservice, intitulé « Gérer mes biens immobiliers », disponible depuis le 2 août 2021 sur le site impots.gouv.fr. Ce nouveau service numérique est offert aux usagers propriétaires, particuliers et professionnels, afin qu'ils puissent consulter l'ensemble de leurs biens bâtis en France, ainsi que leurs caractéristiques. À terme, ce service permettra de répondre en ligne aux obligations déclaratives relatives aux locaux, de dématérialiser les déclarations foncières, de liquider les taxes d'urbanisme, de déclarer l'occupant des locaux d'habitation ou encore de collecter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs locatives, les loyers des locaux d'habitation mis en location. Notre quatrième actualité concerne une jurisprudence qui nous rappelle les limites de l'effet rétroactif d'une fusion-absorption de sociétés. Par cette décision, le Conseil d'État rejette un recours pour excès de pouvoir formé contre les commentaires administratifs publiés par l'administration fiscale au BOFIP relatif à la portée de la date d'effet rétroactif des fusions au plan fiscal. En l'espèce, deux sociétés avaient convenu de donner effet à leur fusion à une date antérieure à celle à laquelle la convention de fusion avait été définitivement conclue. Dans une telle situation, rien ne s'oppose à ce que soient prises en compte toutes les conséquences de la fusion pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante dans le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention a été définitivement conclue. Toutefois, le Conseil d'État rappelle que les effets de la fusion ne saurait exercer une influence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents de chacune des deux sociétés concernées, et donc sur les bénéfices imposables dégagés par celles-ci au cours de ces exercices. Dès lors, Ces effets de la fusion ne sauraient remonter à une date antérieure à la plus récente des dates d'ouverture des exercices des deux sociétés au cours desquelles la convention a définitivement été conclue. Une fois ce principe rappelé, le Conseil d'État s'intéresse au cas d'une société qui n'aurait pas clos d'exercice au cours de l'année civile précédant celle de sa fusion avec une autre entité ou de l'apport de ses actifs à une autre entité. Dans une telle situation, l'obligation dans laquelle cette société se trouve de déterminer le bénéfice résultant des opérations réalisées entre la date de clôture de son précédent exercice et le 31 décembre de l'année considérée et de le soumettre à l'impôt fait obstacle à ce que l'effet rétroactif donné conventionnellement à l'opération de fusion ou d'apport puisse remonter antérieurement au 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette opération est conclue. Passons à une décision intéressante en matière de TVA, dans laquelle le Conseil d'État précise le régime fiscal de l'exercice de la faculté de rachat par le vendeur initial. Le Conseil d'État rappelle d'abord que la vente avec faculté de rachat entraîne le transfert de propriété du bien en ce que tous les droits attachés à la propriété du vendeur sont transférés à l'acheteur qui peut ainsi disposer de l'immeuble vendu, notamment pour le revendre, et qu'elle constitue par suite une livraison de biens au sens de l'article 256 du Code général des impôts. Toutefois, il précise que cette qualification ne saurait être retenue lors de l'exercice, par le vendeur initial, de la faculté de rachat, laquelle s'analyse comme une condition résolutoire replaçant les parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente. Par suite, l'exercice de la faculté de rachat n'est pas constitutif d'une livraison de biens au sens et pour l'application des dispositions applicables en matière de TVA. Le Conseil d'État conclut donc que dès lors qu'elle a pour contrepartie de réserver au vendeur la possibilité, dans le délai fixé par le contrat, d'obtenir la résolution de la cession immobilière et ainsi de récupérer effectivement son bien, la somme correspondant à la différence entre le prix de rachat et le prix de vente doit être regardée comme rémunérant une prestation de service assujettie en application de l'article 256 du Code général des impôts. Passons à une décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 22 septembre dernier, dans laquelle il est rappelé que la désignation des bénéficiaires de distribution occulte ne dispense pas à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'appréhension des sommes en cause. La juridiction administrative considère que la seule circonstance qu'un contribuable ait été désigné comme bénéficiaire de 85% des distributions dans la réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ne dispense pas à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'appréhension effective des dites sommes. Elle dispense le contribuable d'acquitter les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au motif que aucun document ne permet d'identifier les flux financiers ayant conduit à l'appréhension des sommes en cause. Il n'est pas établi que le contribuable ait eu la maîtrise de l'affaire au cours des années en cause ou ait contresigné le document le désignant comme bénéficiaire des distributions. Et enfin, aucun élément précis et concordant de nature à établir l'appréhension effective par le requérant des sommes taxées n'est produit. Passons enfin à notre dernière actualité. Il s'agit d'une réponse ministérielle afférente au crédit d'impôt dit « abandon de loyer » mis en place à la suite de la crise sanitaire engendrée par le Covid-19. Pour mémoire, la loi de finances pour 2021 a instauré un dispositif de crédit d'impôt en faveur des bailleurs qui consentent des abandons et renonciations de loyer au bénéfice des entreprises particulièrement impactées par les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Se posait donc la question de savoir si les associés non résidents fiscaux en France des sociétés ou groupements bailleurs sont bien éligibles au dispositif de crédit d'impôt, et ce dans les mêmes conditions que les actionnaires résidents. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des comptes publics, vient de répondre négativement. Seuls les bailleurs personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4B du Code général des impôts ou personnes morales peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. Les contribuables non résidents qui, en application du second alinéa de l'article 4A du Code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leur seul revenu de source française, mais ne sont pas domiciliés en France, sont donc par définition exclus du bénéfice du crédit d'impôt. En espérant que cet épisode d'actualité vous ait été profitable, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.